Nous voilà avec cette image du lecteur qui ouvre chaque série de 7 tapisseries. Donc il est dans toute la hauteur. Et ensuite on a une tapisserie. Enfin, vous irez voir. Pour les personnes qui n'ont pas été voir, c'est difficile à décrire. Mais en tout cas, il y a des lecteurs et c'est un livre qui est fait pour être voilà, lu, entendu, proclamé et écouté. Donc j'ai essayé d'écouter ce texte et je me suis dit pour aujourd'hui, par quel angle aborder ce texte. Alors évidemment, je suis pleine des images qu'on a vues hier. Les images du livre ont été interprétées par ceux qui ont dessiné les dessins de l'Apocalypse. Et il y a un va-et-vient évidemment entre le texte, les images et l'inspiration qui s'ensuit. Les images mettent en scène le sensationnel et je me suis posé la question, est-ce que c'est pour cela que la plupart des gens considèrent, pensent que l'Apocalypse veut dire la fin du monde? Vous demandez à n'importe quelle personne, au hasard, que veut dire l'Apocalypse? C'est la fin du monde. Je me suis demandé si c'était à cause de cette représentation qui passe peut-être dans l'inconscient collectif. La tapisserie date du XIVe siècle. Et le livre de l'Apocalypse a évidemment inspiré de nombreux artistes, que ce soit des enluminures sur les parchemins, dont la tapisserie est inspirée, des sculpteurs sur le tympan des églises, de la musique, etc., la peinture évidemment. Évidemment, les thématiques que l'on retrouve dans toutes ces images rejoignent ce que vit l'être humain dans le monde. Ce texte arrive en soutien des martyrs chrétiens. Vous avez entendu le texte, sous l'autel, on voit les âmes des martyrs. Et dans l'histoire, il y a la représentation de la destruction de la ville de Babylone. Babylone, eh bien, c'était Rome, en langage crypté et symbolique, pour ne pas être trop visible. Et notre guide nous a montré combien, dans ces images, il y a des actualisations, donc 14e siècle, le temps de la guerre de Cent Ans, le temps des grandes catastrophes, et puis le temps de certains rois aussi. Alors, curieusement, eh bien, quand il y a une image où ça doit être l'image de Dieu, curieusement, eh bien, ça représente l'image d'un roi qui vient de mourir, donc il est déjà au ciel. Donc l'image de Dieu, voilà. Le moment de la moisson, l'image de la moisson. C'est une scène de théâtre, l'Apocalypse. Une mise en scène de multiples symboles qui viennent, pour la plupart, de l'Ancien Testament. Tout est pris pratiquement de l'Ancien Testament et c'est un petit peu transformé pour cette originalité de ce que Jésus-Christ vient apporter. Alors, que veut dire Apocalypse? Ce ne veut pas dire la fin du monde, bien sûr. Cela veut dire la révélation. Et vous avez entendu les premiers mots du livre Kalifara, c'est révélation de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas la révélation de la fin du monde, comme on le croit souvent, mais la révélation de Jésus-Christ. C'est lui qui est au cœur de ce livre. C'est lui qu'on adore avec Dieu. C'est lui l'agneau immolé qu'on va voir dans plusieurs représentations. C'est lui qui combat, c'est lui qui sauve. Ce livre affirme sa souveraineté, malgré tout ce que les chrétiens peuvent vivre de persécution à cette époque. Pourquoi oublie-t-on que le centre de ce livre est Jésus-Christ? Pourquoi ne retient-on que les scènes de violence alors que quand on regarde dans tout le texte, ce ne sont pas du tout la majorité des passages de ce texte? L'être humain ne retient que ce qui est sensationnel. Je me suis posé la question, est-ce que c'est sa vulnérabilité qui le guide vers ce qui va mal pour mieux s'en protéger, comme un animal traqué qui doit s'échapper? Vous avez sans doute entendu, comme moi, beaucoup de réflexions de personnes non-croyantes qui disent « Il y a trop de mal sur la terre pour que je puisse... » Ah, je n'ai pas très contente. « Pour que je puisse croire en un Dieu d'amour. » Le monde est cruel dès le plus jeune âge, en fait. Voilà, donc il y a des gens qui ne peuvent pas croire en un Dieu d'amour. Et ma réponse à ces gens-là, c'est que Je leur réponds, justement, c'est parce que je vois tout ce mal sur la terre, c'est parce que je sais que l'être humain est violent, que j'ai cette foi en Dieu, et en tout cas ça m'a été donné cette foi en Dieu, et que j'ai pas envie de la remettre en question. Il faut se dire que le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu d'amour qui ne renonce pas à la justice. Dieu ne se résout pas au mal. Et je vois ce livre de l'Apocalypse comme un livre de justice pour tous ceux qui souffrent. Ce texte est là pour ouvrir à une espérance sans fin. Alors bien sûr, un des éléments choquants de ce texte, c'est qu'on utilise une image violente de Dieu pour combattre la violence des hommes. Et ça, c'est typique de l'Ancien Testament. Par les anges, Dieu envoie des fléaux, et ça nous fait penser aux plaies d'Égypte. C'est exactement la même chose. On a tous ces fléaux qui reviennent à trois reprises dans l'Apocalypse. Et la violence des punitions a comme but, comme dans l'Ancien Testament, la conversion des peuples, du peuple. Mais ça ne marche pas. Ils ne se repentent pas. C'est comme si Dieu disait aux humains, « Ah, vous voulez savoir qui est le plus fort, puisque vous ne comprenez que ce langage. » C'est vrai que l'être humain ne comprend souvent que la violence. On ne peut pas imaginer qu'un rapport de force puisse se résoudre dans une communication non violente. Combien de fois je me suis fait taxer de bisounours quand j'ai raconté la formation que j'avais faite à une communication justement non violente avec des personnes qui ont su démêler des situations en apparence inextricables. C'est pourtant le chemin de Dieu, la non-violence. Le symbole de l'agneau a beaucoup d'importance dans ce texte. C'est un animal doux qui agit dans sa vulnérabilité. C'est le chemin qu'a pris Martin Luther King, mais on sait bien que ce chemin n'est pas facile selon les situations et les conflits. Faut-il utiliser la violence contre les injustices, contre les exactions des dictateurs? Comment lutter et résister? Dans le chapitre 6, alors que l'ouverture des sceaux révèle les fléaux de guerre et de mort, à l'ouverture du cinquième sceau, on découvre les âmes de ceux qui ont été persécutés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. Ces persécutions ont été violentes à l'époque et ont continué au fil des siècles dans des lieux différents. Aujourd'hui, l'association Portes Ouvertes fait un gros travail d'information et d'aide à tous les chrétiens persécutés dans le monde entier. Alors, dans la persécution des chrétiens, on va regarder l'image suivante. Au chapitre 12, il y a une femme qui accouche. Alors, je ne sais pas si vous voyez, la femme, elle est poursuivie par le dragon. Voilà, on a la femme, là, c'est des chapitres très importants. On a la femme qui est là, elle porte dans ses bras un enfant. Et puis, sous elle, on a le dragon, ici, avec plusieurs têtes. Et puis, en haut, il y a des anges qui vont récupérer l'enfant. Donc, évidemment, quand il y a une femme, forcément, on dit que c'est Marie. Mais ça ne peut pas être Marie qui est enfant de Jésus, puisque Jésus, on va l'adorer dès le début, des premiers versets. Et en fait, c'est plutôt le peuple d'Israël, parce que dans les textes de l'Ancien Testament, le peuple d'Israël est représenté par une femme qui accouche, et elle accouche en fait du peuple chrétien. Et c'est le peuple chrétien qui va être accueilli par Dieu, alors protégé pas complètement, puisqu'il y a des persécutions, mais il y a le dragon là qui est en alerte et en attente pour sauter sur tous les chrétiens qui pourront avaler. Et donc cette manière de représenter cette naissance du peuple chrétien et des persécutions, ça montre que cet enfant, il est pris en charge par Dieu, il est accueilli par Dieu. Et à la fin du chapitre 6, on a entendu que le roi de la terre, les grands, les chefs d'armée, les riches, les puissants vont se cacher. Ces gens-là, même s'ils paraissent invincibles, ils ont peur de celui qui siège sur le trône, donc de Dieu et de la colère de l'agneau. Et la colère est encore une reprise de l'Ancien Testament, où il est dit que le jour du jugement sera le jour de la colère de Dieu. Mais en fait, quand on y pense et quand on y réfléchit bien, à quel moment Jésus se met-il en colère? Uniquement dans les marchands du temple. C'est souvent l'exemple qui nous vient. C'est le seul moment. Des fois, il se met en colère un peu contre ses disciples aussi. Mais il se met uniquement en colère contre les responsables religieux et jamais contre les responsables politiques. Ça reste une question pour nous et ça nous donne à penser. En tout cas, moi, ça me donne à penser. Pour moi, ce texte de l'Apocalypse est un cri pour la justice. Justice pour les victimes, pour les opprimés. En effet, regardons ce qui se passe dans le monde, combien les populations doivent subir les orgueils de leurs dirigeants, de leurs dictateurs, combien subissent des attaques injustes, comme en Ukraine ou dans le Haut-Karabakh, et les Arméniens de cette enclave qui sont obligés de fuir par milliers. Alors ce récit biblique fait le choix d'illustrer les méchants. Comme vous savez, les enfants, il y a un livre qui s'appelle les Max et les Maxi Monstres. Ceux qui ont des petits enfants, ils peuvent leur lire parce que les enfants, ils aiment bien représenter les choses qui font peur par des monstres. Là, c'est pareil, c'est la même chose. Alors on a le mal qui est très illustré, vous voyez là, avec des bêtes monstrueuses. Donc il y en a une très grosse avec les grosses têtes et puis d'autres. Et en fait, voilà, il y en a une qui représente le diable, Satan, et l'autre qui représente les chefs qui veulent bien se soumettre aux forces mauvaises. Il y a une hiérarchie entre les bêtes, et puis on va passer à la diapo suivante. Voilà, vous voyez là, il y a la grosse bête avec les grosses têtes de lion, et il y a plein de gens là, de plein de conditions différentes qui sont en train d'adorer la bête du lion. Voilà. Ils sont soumis à la bête. Et c'est une image qui m'a fait dire finalement, voilà, ça retrouve tous ceux qui souffrent d'un dictateur qui soumet son peuple. Ça peut être un roi ou finalement n'importe quelle personne qui essaie d'avoir une emprise sur l'autre. Ça peut être au niveau individuel. Au niveau individuel, voilà, qui cherche à avoir une emprise sur quelqu'un d'autre, ça peut être malheureusement dans le couple, dans la famille, dans des associations. Et puis, on a parlé récemment du harcèlement à l'école. Le harcèlement à l'école, est-ce qu'il ne se fait pas justement avec la complicité d'autres qui ont vu, qui savent? Donc, c'est ça qu'il faut entraîner chez nos jeunes, la liberté de parole, oser parler. Et puis, bien sûr, il y a dans des groupes, dans des pays, des causes de départ arbitraires qui provoquent des injustices. En France aussi, on a des associations qui savent très très bien prendre le pouvoir et éliminer des gens sans raison. Alors, on ne peut que se poser la question, à qui, moi, je me soumets? À qui ou à quoi je me soumets? Et est-ce que, moi, ça m'arrive de soumettre des personnes à mon bon vouloir. Ce texte dit « Vous n'êtes pas tout puissant, qui que vous soyez. Chaque croyant appartient à Dieu qui a inscrit son sceau et sa marque sur leur front. » L'inscription sur le front rappelle le baptême qui est ancré en nous et la lutte est engagée par Dieu avec Jésus-Christ. Et cette lutte, qu'on le veuille ou non, qu'on y pense ou non, cette lutte est déjà engagée dans le ciel et elle est déjà vaincue dans le ciel. Alors évidemment, pour nous, sur la terre, on se dit qu'est-ce que ça change? Ça peut nous donner une certaine espérance que, voilà, peut-être que ça va évoluer. Parce que c'est vrai, quand on souffre et quand on est dans une crise, on aimerait que la victoire arrive tout de suite, ici et maintenant. On se sent parfois écrasé par les épreuves. Et puis on aimerait bien en finir avec ceux qui nous font du mal. On le voit dans les psaumes. Dans les psaumes, il y a des tas de gens qui réclament vengeance. Alors évidemment, ça ne nous plaît pas trop, parce qu'il y a des sacrées images cruelles dans certains psaumes. Mais il faut se dire qu'à partir du moment où la personne le crie à Dieu, c'est qu'elle ne va pas se venger elle-même. Elle réclame sa justice à Dieu. Et en fait, réclamer sa justice à Dieu, c'est souvent être sauvé soi-même. Alors bien sûr, il y a de multiples épreuves sur la terre, il y a bien sûr les guerres. On a parlé la semaine dernière des fléaux climatiques, des personnes qui sont obligées de partir de chez elles pour arriver chez nous. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Des personnes qui traversent les mers et qui meurent dans les mers en cherchant une terre hospitalière. Il y a des pays qui s'enfoncent dans l'injustice et des spirales mortifères. Et puis je me suis dit, la bête, qu'est-ce qu'elle peut représenter encore? Elle pourrait représenter une bête technologique. Parce que le nombre de fois où on se sent enfermé dans un truc qui tourne en rond et on n'arrive pas à en sortir, c'est un non-sens parfois, la technologie. Alors on va passer à la... Voilà, là il y a une bagarre, une lutte. C'est la lutte de Michel qui est repris de l'histoire du prophète Daniel. Donc le prophète Daniel, il a parlé de la lutte de Michel. Et c'est une des images de la victoire dans l'Apocalypse. Mais malheureusement, il y a énormément de morceaux de tapisserie qui ont été perdus pour plein de raisons. Et il y en a une, notamment celle où le diable est finalement jeté dans la géhenne de feu. On ne l'a pas vue parce qu'elle n'existe plus. Mais en tout cas, régulièrement dans les différentes tapisseries, il y a des images de l'agneau immolé. Donc l'agneau immolé, Jésus sur la croix, qui nous font comprendre que Jésus est au cœur de notre condition humaine et vient souffrir avec nous pour nous en relever. Parce que sa résurrection est l'affirmation de la vie plus forte que toutes les morts, plus forte que toutes les horreurs qui sont décrites dans ce livre. Peut-être que les horreurs sont décrites là pour qu'on sache qu'un jour ça sera fini. Jésus vient nous proposer une puissance de vie qui vient nous guider pour nous maintenir dans sa lumière. Et puis pour ceux qui meurent dans le Seigneur, leur vie ne se termine pas, elle commence dans une vie nouvelle. Alors pour finir, on va avoir la dernière image. Donc la Jérusalem céleste, l'apothéose, arrive avec cette cité divine. C'est la ville de la promesse, la Jérusalem divine qui descend. On se rend compte que le monde idéal, eh bien, on ne revient pas au jardin d'Éden. Il y aura quand même un arbre dans cette ville qui servira à la guérison des nations, les feuilles serviront à la guérison des nations, mais en tout cas c'est un lieu où les humains sont capables enfin de vivre en paix, un lieu où voilà, cette paix est promise. Dans cette ville, la lumière sera la lumière de Dieu, il n'y aura pas besoin de temple, et le texte se transforme au présent. La cité n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et son flambeau, c'est l'agneau. Ce livre vient apporter de l'espérance à tous ceux qui traversent des épreuves. Quoi que nous vivions, Dieu le sait, et Jésus nous aide à avancer. Et puis les épreuves nous montrent que nous ne sommes pas seuls à lutter, c'est aussi une manière de nous adresser à Dieu pour qu'il nous aide. Dieu est souverain sur le monde. Malgré les apparences, le dernier mot lui reviendra. Amen.